Avec l'équipe de la méthode scientifique, vous avez travaillé sur la contagiosité, notamment celle des enfants.
Oui, Guillaume, beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes. Forcément, des parents et des professeurs à l'annonce de la réouverture progressive des établissements scolaires le 11 mai. D'autant plus qu'on a beaucoup entendu que les enfants étaient des réservoirs viraux, faut mettre des guillemets autour de cette expression, et qu'ils étaient potentiellement un gros foyer d'infection. Alors, je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles les enfants développent essentiellement des formes légères de la maladie. Je vous renvoie à la chronique qui était consacrée, c'était jeudi dernier. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui à la contagiosité des enfants en particulier, et des personnes peu ou pas symptomatiques en général. Pour l'heure, et pour commencer, c'est important de le dire, les pédiatres et les infectiologues que nous avons contactés se veulent plutôt rassurants sur ces questions. Pour ce qui concerne les enfants, à l'inverse de l'idée selon laquelle ils seraient un foyer infectieux important, aujourd'hui, le consensus va plutôt dans le sens inverse, à savoir que les enfants se contaminent a priori plus au contact des adultes qu'entre eux, ou que les adultes au contact des enfants. Il y a encore peu de données pour soutenir cela, mais un certain nombre d'indices qui vont dans ce sens. Par exemple, l'enfant symptomatique qui a été contaminé en février en Savoie et qui a eu plus de 80 contacts plus ou moins proches n'a contaminé personne. On sait également que pour les enfants qui déclarent des symptômes légers ou modérés, les prélèvements PCR positifs de ceux qui sont hospitalisés, c'est-à-dire les prélèvements nasaux, sont 3 à 5 fois moins importants en charge virale que chez l'adulte. Par ailleurs, plusieurs indices amènent à penser aujourd'hui que moins les symptômes sont prononcés, moins les risques de transmission sont importants, et parce qu'on s'orienterait vraisemblablement, alors je parle avec énormément de précaution, vers une contagiosité qui serait symptôme dépendante, c'est-à-dire plus on est malade, plus on est contagieux, fort et longtemps, et inversement. Nous allons en savoir plus très vite, puisqu'une étude épidémiologique vient d'être lancée hier sur 600 enfants en Ile-de-France qui présentent pour moitié des symptômes bénins et pour l'autre aucune forme de symptômes. Étude qui va durer un mois jusqu'aux alentours du 11 mai et qui devrait permettre non seulement d'estimer précisément le taux d'enfants asymptomatiques, mais également leur charge virale et la dissémination précise du virus dans ces populations plus jeunes.
Et alors Nicolas, est-ce qu'on a des données sur la contagiosité chez les adultes ?
Alors la question, c'est surtout pour le déconfinement, quelle est la persistance de la contagiosité après avoir contracté la maladie, y compris pour les personnes asymptomatiques. Commençons par eux déjà. Il faut dire que jusqu'à présent, on estimait leur nombre à environ 30% des cas. Une récente étude chinoise sur une cohorte, certes très petite, de 166 personnes infectées, en a recensé 130 asymptomatiques, ce qui fait un taux de 78%, qui sont d'ailleurs en grande partie des enfants et des adolescents. Alors, ce taux est certainement beaucoup trop élevé, mais ça prouve, ça ouvre en tout cas le champ à ce que le taux initial de 30% puisse être revu à la hausse. Ensuite, le risque de contagion de ces personnes asymptomatiques a été revu et considéré finalement comme très faible, d'une part parce qu'il est très probable que leur charge virale soit elle-même plus faible, mais aussi parce qu'en l'absence de tout et d'éternuement, eh bien, elle contribue simplement moins à la dispersion du virus. Qu'en est-il pour les personnes qui ont déclaré la maladie ? Des chiffres très disparates circulent selon les études. Selon une étude publiée dans The Lancet, la contagiosité serait en moyenne de 20 jours et pourrait aller jusqu'à 37 jours après la déclaration des signes cliniques. Mais ces chiffres sont très théoriques et restent difficiles à estimer. D'autant que d'autres études plus récentes et sur des panels plus importants tentent à les faire baisser. Une prépublication allemande indique que l'excrétion du virus est la plus importante au cours de la première semaine d'infection et qu'elle chute au jour 10 des symptômes pour des patients hospitalisés, à tel point que ces patients, selon cette étude, pourraient être renvoyés en auto-isolement chez elles, au-delà du 10e jour. Quid des personnes qui n'ont pas été hospitalisées, qui ont eu des symptômes légers ou moyens ? Une étude du 23 mars qui a suivi la cinétique temporelle de la clairance virale. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire en fait la faculté des tissus à se débarrasser d'une substance. Eh bien, chez des patients atteints d'une forme légère, cette étude montre que sur une durée de symptômes moyenne de 8 jours, la moitié de ces patients restaient positifs à la fin de leurs symptômes, et pour une durée médiane de 2 jours et demi, pouvant aller jusqu'à 8 jours. Voilà, si on prend en compte ces résultats avec une certaine marge de sécurité, on peut estimer raisonnable de se penser contagieux jusqu'à 14 jours après l'apparition des symptômes, lorsque ceux-ci ont été relativement conséquents pendant plusieurs jours. Mais il manque, comme vous l'avez entendu Guillaume, encore pas mal de données pour être tout à fait certain de la durée exacte de la contagiosité.